C'est par une belle soirée d'été en 2002 que j'ai rencontré mon actuel compagnon. Ce fut un vrai coup de foudre réciproque. La chimie entre nous crépitait dans l'air. Nous étions à une terrasse au bord de l'eau et pendant que le soleil se couchait à l'horizon, nous nous racontions nos vies, chacun écoutant attentivement le récit de l'autre. La pleine lune fit alors son apparition. Le romantisme était à son comble. Ce soir-là, la séparation fut particulièrement douloureuse. Mais le lendemain matin, il s'empressa de me rappeler pour me fixer un nouveau rendez-vous. Il ne nous fallut que quelques jours pour que nous nous déclarions notre flamme. Je ne le savais pas encore, mais cette histoire naissante allait profondément modifier la vision que j'avais de moi-même, des hommes et de l'amour. Ayant eu plusieurs relations, plus ou moins longues, j'étais convaincue que la cause de leur échec avait toujours été le refus des hommes en question de trop s'attacher, de se donner réellement à l'autre. Le premier ne voulait pas que nous emménagions ensemble. Le deuxième entretenait plusieurs relations en même temps. Le troisième était encore attaché à son ex, etc. Excédée, je finissais toujours par rompre et par me retrouver toute seule. J'avais l'impression que ce n'était jamais de ma faute, car j'étais toujours disposée à aimer, à m'offrir intégralement. J'étais arrivée à la conclusion qu'il me serait difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un homme prêt à avoir une vraie relation amoureuse qui soit à la fois ouvert, franc, fidèle et adulte. J'avais même presque renoncé à cette éventualité et me voyais déjà finir ma vie comme une vieille fille. Mais cette fois, c'était différent. L'homme que je venais de rencontrer était prêt à se mettre en couple. Il le désirait même. Les week-ends chez l'un, puis chez l'autre, duraient chaque fois un peu plus longtemps, jusqu'à ce que nous emménagions ensemble. Nous étions sous le charme l'un de l'autre, mais les premières disputes ne tardèrent pas à survenir. Je m'énervais contre lui, qui se refermait, et cela m'irritait de plus belle. Nous entrions alors dans un cercle vicieux. Ces différends avaient pour origine une lutte pour le pouvoir, qui imprimait chacun de nos échanges, parfois ouvertement, mais le plus souvent subrepticement, et que nous menions avec différentes armes. Nous nous chicanions systématiquement pour savoir qui avait raison, qui était le meilleur, le plus intelligent, le plus sage, le plus évolué. Bien souvent, nous débattions de notre manière de parler. « Pourquoi n'écoutes-tu pas ? Pourquoi dis-tu non à tout ce que je propose ?» Cette fois-ci, je ne parvenais pas à faire porter la responsabilité de ces dissensions à mon compagnon. Il était autant impliqué que moi dans la relation, c'était évident. Il m'aimait, il n'y avait aucun doute là-dessus, et cela changeait complètement la donne. C'est alors que j'ai commencé à apercevoir le dragon qui couvait dans mon âme, le dragon de la prétention, de la possessivité, cette manie de me mêler de tout, l'incapacité à lâcher prise, tous ces traits typiquement féminins. J'avais rencontré ce dragon dans mon travail lors de recherches sur les personnages mythiques et sur ce qu'ils symbolisent à nos yeux aujourd'hui. J'avais ainsi également découvert le pendant masculin du dragon, le robot, qui avec ses émotions blindées et sa soif de nouveauté et d'excitation a pour sa part tendance à se détacher trop facilement de tout. J'ai alors compris pourquoi et comment ces deux archétypes étaient à ce point ancrés en nous. J'avais lu de nombreux livres et articles sur les relations et en tant que journaliste freelance, j'écrivais moi-même, j'écris d'ailleurs encore, beaucoup sur ce sujet. Ce sont surtout les aspects spirituels de l'amour qui me fascinent. Je m'étais par exemple inscrite à une formation d'un an en théologie qui prévoyait également plusieurs cours sur l'alchimie. Jusqu'alors, je savais de l'alchimie ce que chacun en sait, qu'un alchimiste est une personne capable de transformer le plomb en or. Mais ces cours m'ont ouvert les portes d'un nouvel univers, un monde fascinant, bien que complexe, de textes, de symboles et d'idéaux. Le professeur, un scientifique de l'université Radboud de Nimègue, y évoquait les noces chimiques qui se produisent, selon les alchimistes, entre l'élément féminin et l'élément masculin. Cela m'a frappée. Tous ces principes sont parfaitement applicables aux relations amoureuses d'aujourd'hui, avais-je alors fait remarquer. Mais bien sûr, avait-il répondu, c'est exactement ce dont il s'agit. Ces connaissances nouvelles sur l'alchimie, auxquelles se sont ajoutées mes propres recherches, m'ont donné envie d'écrire ce livre. Car tout ce que je savais, ou presque, sur les relations amoureuses, c'est-à-dire les potentielles pierres d'achoppement et leurs origines, ainsi que les façons d'améliorer une relation, trouvait une synthèse dans les principes fondateurs de l'alchimie. Même si je l'ai écrit dans cet ordre, rien ne vous oblige à lire ce livre en commençant par le début. Vous pouvez l'entamer par où bon vous semble et lire les différents chapitres au gré de vos envies. Ou alors simplement commencer par le début, cela va sans dire. Dans le premier chapitre, je vous expose quelques connaissances théoriques de base sur l'alchimie. Dans le chapitre 2, nous passons à la partie pratique. Le chapitre 3 vous explique en détail la théorie du dragon et du robot. Le chapitre 4 approfondit l'origine biologique et évolutionnaire de ces deux archétypes immanents à nos âmes, ainsi que leur signification spirituelle. Tel est le secret de cette lutte, elle revêt une réelle utilité. Le chapitre 5 vous propose un exercice psychologique, réalisable immédiatement pour une meilleure connaissance de vous-même. J'y mentionne également de nombreux exemples pour vous aider à en interpréter le résultat. Dans le chapitre 6, je décris les différents stades que peut parcourir une relation et dans le chapitre 7, je vous dispense des conseils pour veiller à ce que le combat ne s'envenime pas trop. Autant de conseils et d'informations qui m'ont aidé. Le chapitre 8 s'intéresse à la sexualité et vous explique en quoi un changement d'approche peut vous aider, y compris à ce niveau-là. Le chapitre 9 considère la relation comme une fiole alchimique que la fidélité réciproque, sexuelle mais aussi émotionnelle, permet de maintenir scellée. Dans les trois derniers chapitres, j'explore les facettes spirituelles d'une relation, les possibilités d'autodéveloppement, son besoin et son effet sur l'amour. Chapitre 1. Tout est une seule chose. Tout est une seule chose, disaient les alchimistes, en grec « entopan », raison pour laquelle le plomb peut se changer en or, même dans votre relation. Que se passe-t-il dans les relations amoureuses? Pourquoi sont-elles si souvent conflictuelles? Comment la personne que l'on aime le plus au monde peut-elle à ce point nous irriter? Chaque relation amoureuse s'apparente à un processus alchimique. Notre tentative de faire un avec notre partenaire ne nous laisse pas indemne, elle initie en nous une transformation. La relation, comprise comme un tout, est un nouvel élément qui aspire à la perfection pour nous hisser à un niveau supérieur. C'est la raison spirituelle pour laquelle nous nouons des relations amoureuses. La plupart des personnes le pressentent depuis bien longtemps. Après 14 ans de mariage, on parle de noces de plomb. Le seuil des 25 ans est ensuite baptisé noces d'argent. Celui des 50 ans est associé à l'or et les 60 années de vie conjugale ont pour symbole le diamant. Si tout va bien, votre union devient de plus en plus précieuse et vous vous élevez en tant qu'individu. Vous commencez par un métal insignifiant, le plomb, et vous atteignez le plus précieux des métaux, l'or, en passant par le brillant argent avant d'atteindre la pierre la plus dure qui soit, le diamant. Formé sous haute pression au cœur de la Terre, il est le plus éblouissant des cristaux. Il va sans dire que tous les couples n'atteignent pas forcément l'éclat d'une paire de diamants une fois venu leur 60e anniversaire de mariage. Certains semblent être restés figés éternellement à l'âge de plomb. Néanmoins, d'autres se sont véritablement purifiés et bonifiés au fil de leur longue vie commune. Ils ont surmonté les moments d'adversité, se sont rapprochés intérieurement pour devenir des personnes meilleures et plus complètes. Pas parfaites, non, mais plus aimables, plus attentives, plus posées et plus sages. Le partenaire masculin aura sans aucun doute développé des qualités plus féminines, comme la capacité à exprimer ses émotions. Le féminin aura idéalement emprunté à la masculinité pour devenir plus détaché, moins critique et moins crispé. Chaque relation est donc un processus alchimique avec tout ce que cela implique. Mais qu'est-ce qu'un tel processus exactement ? L'alchimie est la dénomination commune d'un grand nombre de textes et de représentations produits sur plusieurs milliers d'années par des savants, des érudits, des philosophes et des scientifiques d'Égypte, d'Arabie et d'Europe. L'alchimie possédait un versant terrestre et un autre spirituel, lesquels ont longtemps formé un tout unifié. Cependant, vers le XVIIe siècle, ces deux aspects se sont dissociés pour emprunter chacun leur propre voie. La face terrestre de l'alchimie allait donner naissance à notre chimie actuelle. À partir des XVIIe et XVIIIe siècles, la face spirituelle a semblé disparaître suite à l'essor de la science de la raison. Mais elle s'est en réalité perpétuée à travers une multitude de courants spirituels. Le but poursuivi par toutes les expériences alchimiques a toujours été l'atteinte de la perfection. Les alchimistes eux-mêmes y aspiraient et cherchaient dans le monde physique la matière parfaite, le remède absolu. Son symbole le plus emblématique était la pierre philosophale, lapis philosophorum en latin, censée pouvoir changer le plomb en or. Le plomb est un métal lourd et sombre, terrestre, obscur, tandis que l'or est un métal précieux qui brille et scintille sans jamais s'oxyder. Les alchimistes étaient convaincus qu'il devait être possible de transformer le plomb en or car ils postulaient que tout, c'est-à-dire l'ensemble de la création, n'était qu'un et qu'un unique principe divin transcendait tout, de la terre au ciel. Et pensaient-ils, si tel était effectivement le cas, il devait être possible d'élever une matière au sein de cette unité, de la rendre plus précieuse et plus noble. Hisser la vie terrestre à un niveau supérieur de perfection, tel était donc l'objectif de l'algèbre.